dimanche de l'été 2005. Je suis en plein milieu en fait d'un road trip aux États-Unis. Je vais de Los Angeles jusqu'à New York. Donc c'est un voyage qui dure 3-4 semaines. Et au cours du trajet, on décide avec mon compagnon de s'arrêter à Détroit. C'est un dimanche, il fait très chaud. On décide de s'arrêter à Détroit juste parce qu'on aime bien les White Stripes, qui est un groupe de rock. On arrive en centre-ville, c'est peu avant l'heure du déjeuner, on se gare. Et puis, on commence à juste déambuler un peu dans le centre-ville. On n'a pas de carte, on ne sait pas très bien où on est. Ça ressemble tout à fait à un centre-ville d'affaires américains, c'est-à-dire des gratte-ciels, des larges avenues. Puis c'est dimanche, donc il n'y a pas grand monde. Et puis au bout d'un moment, on se dit qu'on va chercher quelque chose à manger, donc on se balade. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce paysage. On lève la tête. D'abord, on cherche des enseignes, on n'en voit pas. Ensuite, on regarde les gratte-ciels autour de nous et puis on commence à voir des carreaux cassés, des palissades. Et on voit ça sur un gratte-ciel, on se dit bon, c'est bizarre. Et puis on regarde les autres et on s'aperçoit qu'en fait, tous les gratte-ciels autour de nous, quasiment, sont pleins de carreaux cassés. Et puis on s'aperçoit aussi que ça fait trois quarts d'heure qu'on est dans la ville et qu'on n'a vu personne. Et donc là, il y a un espèce de sentiment d'étrangeté très très violent qui s'empare de nous. Hein. On se demande ce qui se passe. Et justement, rien ne se passe. On a l'impression qu'on n'est pas vraiment dans le centre d'une ville d'affaires américaine, mais plutôt dans une sorte de ville fantôme. Et puis, c'est l'heure du déjeuner, moi j'ai faim. Donc on cherche quelque chose à manger et on ne trouve pas. Donc on repart. Et c'est un jour qui est très important pour moi parce que j'arrive dans une ville qui ressemble à mon paysage habituel, le paysage de la modernité, du capitalisme, des grandes villes, des mégalopoles. Des mégalopoles américaines, j'en ai vu plein. Et là, il y a quelque chose qui ressemble à la fin du monde. Et en même temps, c'est très trivial. C'est une fin du monde où on risque pas grand-chose, il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de risque, il n'y a juste pas de sandwich. Donc c'est une fin du monde si on veut. Et je n'ai pas de récit pour la raconter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, ça a été vraiment un moment important pour mes recherches, dans la mesure où je travaillais déjà un peu sur les récits d'apocalypse. Mais pour moi, les récits d'apocalypse, c'était des zombies, des survivants, la fin du monde telle qu'on se l'imagine. Là, d'abord, c'était une expérience un peu triviale. Donc, ça m'a donné envie d'approfondir. Et surtout, quelques années après, je suis tombée sur un livre de photographie. Et ce livre de photographie m'a permis de comprendre ce qui s'était passé à Détroit. Ce qui expliquait finalement ce paysage. Et ce qui s'était passé donc dans ce paysage qui ressemblait à un paysage post-apocalyptique, en fait, c'était une catastrophe économique lente.
Ce que raconte Raphaël Guidé est fascinant. Raphaël Guidé, jeune femme au look moderne, est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Poitiers. Sa spécialité, l'apocalypse, la représentation des catastrophes dans la littérature et les sciences sociales, les conséquences des crises financières ou environnementales. Le sujet est d'actualité. Elle tente d'expliquer pourquoi le scénario apocalyptique revient actuellement dans une civilisation qui n'est plus soudée ni par la croyance religieuse, ni par l'espoir révolutionnaire. Il y aurait même une forme de banalité de l'apocalypse. Beaucoup pensent à la fin du monde. Pour Raphaël Guidé, la ville de Détroit, moitié ville fantôme, moitié ville jardin, se révèle être un terrain d'enquête exceptionnel. Raphaël Guidé, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2005? Vous êtes retournée à Détroit?
Oui, alors dans un premier temps, je ne suis pas retournée à Détroit, j'ai commencé à lire sur Détroit. Et notamment, je suis partie de photographie, d'un livre de photographie qui a été fait par deux jeunes photographes français qui se trouvaient eux aussi à l'été 2005 à Détroit, mais en train de prendre des photos des ruines. Donc ces deux photographes s'appellent Yves Marchand et Romain Meffre. Ils ont inventorié toutes les ruines de Détroit, qui sont des ruines de l'âge industriel. Donc vous voyez les usines Ford, les usines de General Motors, toutes ces usines qui ont fermé au moment où les grands constructeurs automobiles ont délocalisé finalement leurs entreprises. Et vous voyez aussi toute la richesse de cette ville, des gratte-ciels vides, des maisons qui ont été comme quittées en catastrophe. On dirait qu'il y a eu une catastrophe nucléaire et que les gens sont partis au milieu de la vaisselle. Tout est en place, y compris dans les institutions, et c'est peut-être l'aspect le plus choquant du livre, parce qu'on voit par exemple des commissariats dans lesquels toutes les pièces à conviction sont restées sur place.
Des exposées. Échantillons de sang par exemple.
Des échantillons de sang d'un serial killer, qui était un serial killer très connu, Benjamin Atkins, et qui sont restés dans les tiroirs. Comme si là encore, il y avait eu une urgence absolue. Et ce qui est très beau dans ce livre et très intéressant, c'est que d'un côté, on a cette vision de ruines complètement post-apocalyptique. On a l'impression qu'on est dans quelque chose qui ressemble à Pripyat, comme à Tchernobyl. Quelque chose de l'ordre d'une catastrophe nucléaire s'est passé. Et en même temps, on a une très longue description, une introduction qui nous explique que ce qu'on voit, c'est le résultat d'un effondrement qui a duré 50, 60 ans. Et c'est pas un effondrement comme on se l'imagine habituellement, dans le sens où c'est pas la conséquence d'une crise économique. C'est un effondrement qui commence en pleine prospérité américaine, dans les années 40-50. C'est un moment où Détroit commence déjà à perdre des habitants, tout simplement parce que les grandes entreprises américaines se rendent compte qu'elles peuvent trouver des villes dans lesquelles il y a moins de syndicats et on peut payer moins cher les employés. Et donc, elles commencent à fermer les entreprises, mais à un moment où les voitures se vendent très bien, il n'y a pas du tout de problème économique. Et donc, s'enclenche une spirale qui va être une spirale de déclin et de décroissance dans laquelle, progressivement, la ville s'endette, la ville perd des habitants, ses habitants qui restent sont pauvres, elle réussit de moins en moins, du coup, à lever des impôts, et donc toutes les institutions ferment les unes après les autres.
Et en 2008, c'est la banqueroute, et Détroit est devenu pour vous un terrain de recherche, on peut le dire comme ça ?
Oui, alors je me suis beaucoup intéressée en fait au rapport entre apocalypse et inégalité. C'est-à-dire que quand on s'imagine l'apocalypse, on imagine, parce qu'on a un peu cet arrière-plan biblique, que dans l'apocalypse, ce qui compte, c'est les différences morales. Il y a les bons, les méchants, et normalement, les bons s'en sortent, pas les méchants. Mais en réalité, quand on envisage les catastrophes lentes, que ce soit les catastrophes économiques, les catastrophes environnementales, on s'aperçoit que on a certes un processus destructeur, mais qui bien sûr frappe de façon très différenciée les pauvres et les riches. Et que donc la catastrophe qu'on voit comme quelque chose qui finalement abolit les classes sociales, au contraire, c'est quelque chose qui les dévoile. Et ce qui est très frappant quand on va à Détroit aujourd'hui, c'est qu'on a ces longues avenues américaines, hein, ces grandes avenues très très rectilignes qu'on prend en voiture, et on va passer vraiment en quelques centaines de mètres d'endroits qui sont extraordinairement pauvre et abandonné et dans un état de déréliction absolument presque inimaginable.
Vous pouvez habiter du tout ?
Habiter, si, mais par très peu de gens. Donc, quelques maisons restent avec des habitants, mais on est passé de 2 millions d'habitants dans les années 50 à 600 000 aujourd'hui. Donc, c'est une décroissance spectaculaire. Et donc, on a ces quartiers très, très déshérités dans lesquels les gens se débrouillent. Il faut s'imaginer qu'à Détroit, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'eau potable, par exemple. Donc quand on dit qu'ils ont perdu toutes les infrastructures, ça veut dire qu'ils ont perdu même pour certains l'eau courante. Donc on voit que Détroit nous montre qu'on peut tout perdre, hein, même dans une grande ville de la plus grande puissance mondiale. Et ça, il me semble que ça résonne évidemment pour nous quand on réfléchit à ce qui nous attend finalement dans ce siècle de catastrophes.
Raphaël Guidé, une question peut-être un peu bizarre pour vous, mais quel est le rapport avec la littérature ?
Alors au départ, il n'y en a aucun. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Moi, je travaille sur la littérature et la photographie. Et je suis venue à Détroit par la photographie au départ, Parce que ces images, justement, des photographes français, elles ont beaucoup circulé. Alors, il y a eu ce livre hein, qui a eu beaucoup de succès, qui était très frappant. Et puis, au moment de la crise économique de 2008, et encore après, quand Détroit fait faillite en 2013, ces images, elles ont beaucoup circulé. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'images pour montrer ce qu'est une crise économique. Et donc, dans tous les titres de presse, on a eu besoin, vous voyez, une courbe du Dow Jones, c'est pas très frappant. Alors que ces images de crise à Détroit, elles étaient très évidentes. Donc ces images ont beaucoup circulé, même si en fait ce qu'elles nous montraient, c'était pas quelque chose qui s'était passé en 2008. C'était encore une fois quelque chose qui s'était produit pendant des années, qui était déjà présent bien avant la crise. Et donc, moi, j'ai commencé par m'intéresser à ces photographies. Et ensuite, j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait derrière, justement. Parce que là, il y avait manifestement une histoire complexe. Et cette histoire, elle n'était pas racontée dans ces photos. Donc, j'avais besoin de textes et j'avais besoin de récits pour comprendre ce qui s'était passé là.
Vous les avez trouvés, ces récits? Vous en avez trouvé beaucoup? Vous avez trouvé des romans? Vous avez trouvé des documentaires? Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Alors, j'ai trouvé une mine d'or de récits, c'est-à-dire il y a des dizaines de romans, que ce soit français, anglais, sud-africain, australien, c'est-à-dire que Détroit est un lieu en fait d'investissement imaginaire très très fort dans lequel beaucoup de gens finalement imaginent justement une sorte de décor de fin du monde dans lequel ils ont envie de raconter des histoires. Et puis, il y a des dizaines de films, puisque, en fait, Hollywood a utilisé les décors de Détroit comme des décors grandeur nature pour raconter des histoires de crimes, de zombies.
De fin du monde.
Il y a aussi toute une série de documentaires, alors que ce soit des documentaires écrits ou des documentaires filmiques. Par exemple, un film que sans doute beaucoup d'auditeurs ont vu, Demain, de Cyril Dion, dans lequel on a toute une partie consacrée aux fermes urbaines de Détroit. Et donc, on a des récits documentaires, des récits littéraires, des récits des habitants. Et ces récits ne sont pas cohérents. À tel point que, en 2017, Détroit a recruté ce qu'ils appellent un chief storyteller, c'est-à-dire un écrivain qui était censé essayer de raconter la réalité des histoires de Détroit. Et qui était censé, justement, un peu montrer la diversité des histoires qu'on pouvait raconter à partir de cette situation de fin du monde.
Qu'est-ce que vous avez découvert en épluchant toutes ces histoires?
Alors la première, j'ai fonctionné un petit peu comme une archéologue, si on veut, mais avec un terrain qui est un terrain de récit. Et donc j'ai commencé par les strates les plus apparentes, la surface. À la surface, il y a ce que j'appellerais des grands récits. C'est des récits qui traversent aussi bien les documentaires que les films, etc., qui sont des sortes de récits récurrents sur les ruines. Alors ces grands récits, il y en a trois peut-être principalement. Le premier, c'est le récit de l'extinction. C'est le récit qu'on voit dans ces photos justement de Marchand et Meffre. Une ville vidée de ses habitants, dans laquelle on peut anticiper la mort de l'humanité, en quelque sorte. Et donc ces images, elles résonnent vraiment avec tout un imaginaire de l'extinction qui est très présent aujourd'hui, puisque évidemment, ce qu'on s'imagine dans les prophéties les plus alarmistes hein, concernant le siècle à venir, c'est une possibilité de la disparition pure et simple de l'espèce humaine. Et Détroit a été beaucoup utilisé comme une sorte de support pour représenter cette extinction.
Un peu comme Tchernobyl, en fait.
Exactement. Sauf que Tchernobyl, il y a un accident nucléaire. À Détroit, c'est une catastrophe économique qui peut nous concerner tous. On ne vit pas tous à proximité d'une centrale nucléaire. En revanche, on vit tous dans des métropoles capitalistes. Et donc, ce qui est particulièrement inquiétant à Détroit, je crois, et ce qui fait le succès de ces images, c'est justement le fait qu'on y voit la possibilité d'un monde sans hommes, un monde qui est le nôtre. Et que quand on pense aux Romains, bien sûr, il y a des ruines d'autres civilisations, mais les Romains n'ont pas regardé leurs propres ruines. Alors que nous regardons nos ruines, alors que nous sommes encore là.
Raphaël Guidet, vous avez parlé de l'extinction et vous m'avez dit il y a trois thèmes. Quels sont les deux autres?
Alors l'autre thème, c'est celui du retour à la nature, qui a en fait deux déclinaisons. Une déclinaison qui, au fond, est un peu une variante de l'extinction, c'est-à-dire une déclinaison dans laquelle, finalement, Détroit, ce serait le retour à la prairie originelle. Toutes ces maisons seraient regagnées par la nature. Et dans certaines photographies de Détroit, par exemple celle d'Andrew Moore, vous voyez les moquettes qui sont transformées en mousse. Comme si, finalement, la nature était capable de s'emparer de nos constructions les plus durables et d'en triompher. Et donc là, on est dans un imaginaire dans lequel on revient à une nature vierge et dans lequel il n'y a pas d'homme non plus. Et puis, il y a une variante peut-être plus optimiste, celle qu'on voit d'ailleurs dans le documentaire de Cyril Dion, qui est celui de l'agriculture urbaine. Détroit serait un lieu où on pourrait inventer une nouvelle ville dans laquelle on pourrait conjuguer finalement la ville et la nature, et dans lequel on pourrait inventer finalement la ville autonome, la ville qui peut vivre de son agriculture au sein même des immeubles, dans les friches qui sont laissées par le départ des habitants.
Un nouveau monde utopiste, mais pas forcément utopiste non plus.
Un nouveau monde utopiste au sens où il inverse complètement les coordonnées de notre monde. Il nous déplace dans un ailleurs, il nous renouvelle complètement notre vision de la ville, mais pas utopiste en ce sens qu'il existe. C'est-à-dire qu'effectivement, Détroit est un peu le lieu d'invention mondiale et la capitale mondiale de l'agriculture urbaine. Et pour des raisons très simples, comme tous les supermarchés, les épiceries ont fermé, les habitants ont bien été obligés de cultiver des légumes pour remédier à des problèmes d'autosuffisance alimentaire. Alors le troisième thème, il est moins connu à mon avis et moins facile à observer dans les récits littéraires. C'est celui qui vient de l'économie en fait, qui est le récit de la destruction créatrice. C'est-à-dire que Détroit est représenté comme une sorte de ville phénix qui se relève toujours de ses cendres. Alors c'est la devise d'ailleurs de Détroit, hein, une devise qui compare finalement la ville à un phénix qui se relève sans cesse. Et cette devise, elle est beaucoup invoquée par les investisseurs qui en fait ont racheté tous les gratte-ciels vides de Détroit. Et notamment par un milliardaire qui s'appelle Dan Gilbert, qui a une entreprise de crédit en ligne gigantesque et qui a racheté, je crois, 90 gratte-ciels. Et puis, il les a rénovés et il a transformé le centre-ville et il est représenté comme une sorte de sauveur de Détroit. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que aussi bien des publicités que des films ou même, je m'intéresse parfois à des textes qui sont produits, par exemple, par des agences bancaires qui vont faire le récit de la crise financière de Détroit. Donc des récits qui ne sont pas littéraires du tout, bien sûr. Et là, ils vont montrer finalement que Détroit nous montre la capacité du capitalisme à être en quelque sorte increvable, à s'accommoder de tous les désastres. Et donc, quand on veut voir, nous, dans la crise financière, dans 2008, l'anticipation d'un effondrement général, ce que nous montrent ces récits, c'est plutôt le fait que le capitalisme s'accommode très bien du désastre et que ce n'est pas parce que le système s'écroule qu'on arrête de faire des affaires. Et au contraire, même d'une certaine manière, l'écroulement du système rend possible toute une série d'investissements, et ça on l'observe dans toutes les catastrophes, hein. C'est vrai aussi par exemple pour Katrina à la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est un récit qui, bien sûr, est moins littéraire, donc peut-être beaucoup moins connu, mais qui est très présent dans les représentations économiques.
Alors, Tchernobyl et Détroit sont des réalités, mais l'apocalypse, on a l'impression que c'est un vrai sujet du moment. C'est presque un sujet à la mode. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah alors justement, quand on s'intéresse à Détroit, on perçoit à quel point l'apocalypse est à la mode. Parce que si on lit les récits sur Détroit, on a l'impression qu'il n'y a personne dans cette ville. Ou alors que les habitants qui habitent dans cette ville sont des sortes de survivants d'un film post-apo. C'est-à-dire que même quand on ne les dépeint pas comme des zombies, c'est tous des gens qui sont extraordinairement pauvres, qui ont des vies marquées par la criminalité, par la dureté. Et c'est vrai à certains égards. Mais à d'autres égards, quand on va à Détroit, bah, Il y a 600 000 habitants, ce qui n'est pas rien. Et ces habitants mènent des vies qui sont, à bien des égards, aussi normales. C'est-à-dire, ils continuent à avoir des histoires d'amour, des histoires de travail, des problèmes de transport, des problèmes qui sont très prosaïques. Et si vous pensez aux grands films post-apocalyptiques, on s'intéresse assez peu à la question des bus, des métros ou des tramways, à des questions très prosaïques de supermarchés, d'approvisionnement, sauf en des termes qui sont toujours des termes survivalistes ou des termes très radicaux, en fait, qui correspondent pas tout à fait à ce qu'est la vie dans les ruines. Et donc moi, ce qui m'a intéressée à partir de là, c'était justement de questionner cet imaginaire qui est un imaginaire excessif, un imaginaire d'une certaine manière auquel on a du mal à croire, c'est-à-dire que l'apocalypse, elle est partout autour de nous. Et en même temps, qui peut vraiment croire que notre monde va devenir celui des films catastrophes hollywoodiens? Qui peut se projeter dans cet apocalypse? Donc ce qui m'a intéressé, c'était de voir si justement, dans des endroits où la catastrophe a déjà eu lieu, parce qu'en fait la catastrophe environnementale, la catastrophe écologique, la catastrophe économique, c'est des choses qui sont présentes, qui sont pas à venir, qui existent déjà. C'était donc de partir de ces endroits-là où c'est déjà arrivé, et de voir si on pouvait pas trouver des récits qui soient pas apocalyptiques justement, qui soient un peu plus complexes, qui soient un peu différents, et qui permettent de comprendre peut-être ce qui nous arrive ou ce qui va nous arriver.
Est-ce que vous les avez trouvés, ces récits, qui ne sont pas totalement apocalyptiques?
Alors, c'est plus difficile de les trouver. C'est là je reprends un peu mon imaginaire de l'archéologue. J'ai dû creuser plus profond que les récits de surface. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a parcouru comme ça tout ce corpus littéraire ou photographique ou filmique, on s'aperçoit de manière un peu désespérante, justement, qu'on a beau avoir des dizaines de récits, très peu d'entre eux, en fait, prennent en compte vraiment la complexité de ce qui s'est passé, le temps long de ce qui s'est passé.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas réalistes?
Ça veut dire qu'en tout cas, chacun choisit de tisser un fil narratif. Donc ça va être le fil de la Renaissance, ou le fil du retour à la nature, ou le fil d'un monde sans homme. Mais aucun ne va envisager justement la coexistence entre tous ces espaces et entre tous ces récits. C'est-à-dire qu'à Détroit, aujourd'hui, justement, il y a évidemment des quartiers où la vie renaît, où les gens disposent d'un bon café latté comme dans n'importe quel café américain, où on peut avoir de belles maisons, voire même de très très belles maisons, parce qu'il y a des gens très très riches avec des châteaux littéralement en plein centre de Détroit. Et puis, il y a des gens qui vivent une vie sans eau courante, sans transport, dans des endroits qui sont effectivement marqués par une forte criminalité. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est justement où est le contraste? Comment est-ce qu'on en rend compte? Où est-ce qu'on va trouver les récits qui permettent justement de saisir tous ces contrastes? Et il y en a, malgré tout, mais ça suppose de vraiment sortir presque de notre définition habituelle de la littérature, dans laquelle on s'intéresse à un genre, le roman post-apo, la climate fiction, ça c'est la fiction climatique.
Oui.
Et plutôt d'aller chercher finalement toutes sortes de textes, y compris des textes qui peuvent être produits par des chercheurs à Détroit, ou des textes qui peuvent être produits par des habitants qui racontent leur histoire. Donc d'élargir un peu ce qu'on entend par représentation ou littérature, et d'aller justement à la rencontre aussi parfois des habitants ou de ce chief storyteller, par exemple, que j'ai rencontré, pour leur demander de raconter une histoire de Détroit qui soit une histoire des inégalités, des contrastes, du temps long. Donc une histoire qui restitue finalement tout ce qu'on ne voit pas dans les images de la catastrophe.
Le but de tout ça, c'est de raconter la vraie histoire, la véritable histoire, c'est de comprendre, c'est de comparer les œuvres, c'est d'aller à la recherche d'œuvres. Quel est-il?
Alors le but à l'origine, c'était vraiment de répondre à cette question qui avait surgi ce dimanche de l'été 2005. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour qu'une métropole qui était autrefois la quatrième ville la plus riche des États-Unis, qui emblématise le rêve américain, qui est la capitale des voitures et de la Motown, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'elle en arrive là? Après, en revanche, C'est ajouter une deuxième interrogation au fur et à mesure, qui était une interrogation sur le rapport entre ce qui s'était passé à Détroit et ce qui est en train de nous arriver à tous. Parce que je pense que si tout le monde s'intéresse, tout le monde, bien sûr, je parle des romanciers, justement, des documentaristes ou des chercheurs en sciences sociales, si tous s'intéressent à Détroit, c'est parce que cette ville, elle semble receler une sorte de secret de notre avenir. Et peut-être qu'elle ne recèle pas justement de... Peut-être qu'elle n'a pas de valeur prophétique, peut-être que c'est pas ça qu'il faut y chercher. Mais en tout cas, moi ce que j'ai essayé de faire à partir de là, c'est effectivement de faire le lien entre ce que j'observais à Détroit et ce qui est en train de nous arriver à tous, c'est-à-dire l'incertitude, la précarité, le sentiment de vivre dans un monde qui est de plus en plus voué à l'apocalypse en quelque sorte.
Et vous avez trouvé ces liens ?
Oui, alors le premier lien, me semble-t-il, qu'on peut faire, c'est le fait que justement, quand on dit qu'on est voué à l'apocalypse, je le constate bien avec mes étudiants sont tous des apocalypticiens, ils sont tous persuadés que la fin du monde est pour bientôt. Et ça, c'est vraiment une tendance très forte de la jeunesse, mais que je pense qu'on comprend tous et qu'on comprend d'autant mieux depuis la crise du coronavirus.
Et du changement climatique.
Et du changement climatique, voilà. On a ce sentiment qu'effectivement, autrefois, on allait vers le progrès, et maintenant, on va tous droit vers la catastrophe. Donc si on a un horizon, c'est celui de la catastrophe. Et c'est devenu une sorte d'évidence partagée. Hein. C'est très frappant, hein, quand vraiment dans mes cours, ça fait 15 ans que j'enseigne, et en 15 ans, j'ai vu les étudiants se convertir au catastrophisme, devenir inquiets. Et cette inquiétude, bah, elle m'inquiète aussi. Hein. J'ai des enfants, je me demande dans quel monde ils vont grandir. Et ce monde, je pense qu'on peut le penser autrement que sous la forme de l'apocalypse. Parce que c'est pas ça qui va nous arriver. C'est pas une catastrophe universelle dans laquelle la tour Eiffel s'effondre, la maison de la radio implose et des survivants se jettent les uns sur les autres. Ce qui va nous arriver, c'est un processus qui a été très bien décrit par le GIEC, hein, par exemple. C'est-à-dire un processus qui est déjà en cours, donc déjà qui n'est pas à venir, mais qui est présent. Un processus qui est inégalitaire, un processus qui est aussi discontinu. Et ça, c'est difficile, en fait, pour nous de le penser, ce processus, parce qu'on a l'habitude, justement, d'envisager les catastrophes comme quelque chose de toujours très ponctuel. Il y a un avant,
et violent,
un pendant, oui. Un après. Et ce que nous montre Détroit, justement, c'est qu'un monde, ça se perd petit à petit. Ça se perd en des décennies. Et on ne se rend pas forcément compte à chaque étape de ce qu'on est en train de perdre. Détroit nous apprend à regarder la perte d'un monde comme un processus extrêmement lent, inégal, discontinu. Et un processus qui engage des émotions, des réactions et des récits qui sont extrêmement hétérogènes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'après aller chercher dans ce type d'expérience de la perte du monde, les récits qui nous aident le plus à comprendre ce qui nous arrive avec le changement climatique.
Il y a toujours eu des obsessions apocalyptiques. Ce qui est nouveau, c'est que nous sommes devenus les artisans de notre destruction. On pense à l'effondrement alors qu'il est déjà en cours. On a de fausses représentations et on n'arrive pas à faire la bonne expérience de pensée. Pour Raphaël Guidé, la littérature, le cinéma ou la photographie peuvent nous aider à comprendre et à raconter la perte du monde. Alors, est-ce qu'il y a véritablement des récits qui nous aident à comprendre ? Parce qu'à vous entendre, les récits ne sont pas tout à fait réalistes.
Bah justement, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire, certains récits, me semble-t-il, non seulement ne nous aident pas à comprendre ce qui nous arrive, mais même nous empêchent de comprendre ce qui nous arrive. Je pense à l'imaginaire... auquel tout le monde peut penser, hein, des films hollywoodiens type 2012, Le jour d'après. Le jour d'après, par exemple, de Roland Emmerich, c'est un film dans lequel on va voir une catastrophe climatique qui intervient de façon extrêmement brutale, avec un avant, un après et un monde à l'envers. Et Il me semble que ce film-là, non seulement il ne nous aide pas à comprendre ce qu'est le changement climatique, mais d'une certaine manière, il fait écran à notre compréhension. Il nous aide à dénier finalement ce que va être la catastrophe ou ce qu'elle est déjà.
J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'œuvres qui parlent ou qui évoquent l'apocalypse aujourd'hui, mais toutes ces œuvres ne sont pas forcément négatives. On peut présenter des mondes d'après, entre guillemets, différents, positifs.
Oui, alors, effectivement, l'apocalypse n'est pas toujours perçue comme un processus négatif. Et on le voit d'ailleurs dans la culture effondriste actuelle, certains se mettent à souhaiter d'une certaine manière l'effondrement parce que l'apocalypse, ce serait un moyen de sortir de notre époque. Et au fond, on serait dans une réalité globalisée du capitalisme, de la violence, de la dévastation écologique. Et finalement, notre seul espoir, ce serait la table rase apocalyptique. Mais moi, ce que je voudrais questionner, c'est cet imaginaire de la table rase. Et c'est là encore que je crois qu'il faut opposer certaines fictions, qu'elle soit apocalyptique ou utopique, qui repose sur cette idée qu'il y a un avant, un après, et qu'après, il n'y a plus rien. On crée un monde nouveau à partir de rien. Et puis, une autre vision de la catastrophe et de la perte qui va montrer que après une catastrophe, comme celle qu'on a vécue, par exemple, l'année dernière, hein, et dans laquelle on est toujours, celle de l'épidémie de coronavirus, il reste toujours beaucoup de choses, c'est-à-dire que la catastrophe, l'apocalypse, c'est pas forcément spectaculaire. L'apocalypse, ça peut être d'avoir à sortir une attestation pour sortir de chez soi. Et de se rendre compte que tout soudain, la liberté, quelque chose qu'on avait toujours tenu pour acquis,
n'est plus là.
N'est plus là.
Comment est-ce qu'on aborde la catastrophe aujourd'hui par rapport au récit qui abordait la catastrophe il y a quelques siècles? Parce qu'il alors, y en a eu des catastrophes
bien
aussi.
Bien sûr, alors c'est une vaste question sur laquelle se sont penchés notamment de grands historiens comme François Walter ou François Hartog. En fait, si on veut simplifier, il y a, disons, trois périodes. Il y a une période qu'on pourrait dire ancienne, pré-moderne, dans laquelle ce qui prédomine, c'est le mythe biblique, et dans laquelle donc l'apocalypse, elle est perçue finalement comme quelque chose qui a du sens. Et ça peut avoir deux sens, soit un châtiment, soit un avertissement. Mais du coup, quand la catastrophe arrive, que ce soit un tremblement de terre, une épidémie, elle s'intègre tout de suite dans un récit, et ce récit, il a du sens. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, on sait que ça peut arriver, d'abord, parce que l'existence prémoderne, elle est pleine d'aléas, les épidémies, ça arrive. Et d'autre part, quand ça arrive, on a tout de suite des récits qui se mettent en place pour l'expliquer. Ça arrive parce que les hommes ont péché. Ou ça arrive parce que Dieu veut avertir ses élus qu'ils doivent s'amender pour fonder la Jérusalem céleste, etc. Donc à chaque fois, c'est un récit qui est un récit en quelque sorte de purgation et de refondation morale. Et c'est un récit, par exemple, qui perdure hein, dans les films catastrophes, dans lequel à la fin, par exemple dans 2012, à la fin, vous avez des sortes d'arches dans lesquelles les bons personnages perdurent et vont survivre justement au désastre global.
Donc ça, c'est le mythe biblique, en fait.
C'est le mythe biblique qui, bien sûr, n'est pas universel, mais qui correspond, disons, à l'interprétation dominante de l'apocalypse occidentale. Et puis, à partir de la période des Lumières, et plus précisément à partir du tremblement de terre de Lisbonne, en 1755, on voit venir une nouvelle interprétation de l'apocalypse, dans laquelle la catastrophe devient quelque chose auquel justement on n'a plus le droit de donner sens. Et notamment, il y a un très grand poème de Voltaire qui s'appelle le poème sur le tremblement de terre de Lisbonne, qui va s'attaquer à tous les spectateurs tranquilles qui sont les philosophes, qui philosophent à distance du désastre et qui essayent de lui donner un sens. Et ces philosophes, ce sont les philosophes providentialistes qui considèrent justement que la providence intervient dans la catastrophe et qui, dit Voltaire, essaye de toujours voir comment la catastrophe, finalement, même si elle cause du mal aux personnes qui en souffrent, est source d'un bien dans les lois générales et dans l'avenir. Donc à partir de ce tremblement de terre de Lisbonne, on va avoir une contestation assez forte de ce récit biblique dans lequel la catastrophe avait un sens. Et en revanche, on va voir se mettre en place un autre récit, qui est un récit finalement qui n'est pas si éloigné du récit biblique, qui est le récit du progrès. C'est-à-dire que le progrès va être, par la technique, ce qui va nous permettre de dominer les catastrophes. Et en dominant les aléas de la vie, par tous les progrès technologiques, par tous les progrès civilisationnels, on va pouvoir atteindre quelque chose qui ressemble au paradis, comme dans le mythe biblique, parce que dans le mythe biblique, l'Apocalypse, elle précède le royaume. On va pouvoir atteindre donc ce royaume, mais par les voies humaines, par les voies du progrès historique, technique, civilisationnel. Et ça, c'est le grand récit des Lumières, en fait.
Et aujourd'hui, on a dépassé cette notion de progrès.
Alors aujourd'hui, le récit des Lumières en a sacrément pris un coup, effectivement. Il a pris un premier grand coup avec la Première Guerre mondiale, on pourrait dire, et ensuite avec Hiroshima. Puisque à partir de là, à partir de la chaîne des catastrophes du XXe siècle, la question du progrès va au contraire nous montrer les conséquences terriblement néfastes de la technique et la possibilité toute nouvelle qu'a l'homme de s'anéantir intégralement. Et donc là, on va voir un troisième stade, si vous voulez, qui est celui de l'apocalypse sans royaume. C'est un terme qu'utilise le philosophe Günther Anders pour décrire, finalement, on a eu le royaume après l'Apocalypse, ça c'était la version biblique. On a eu le royaume sans l'Apocalypse, ça c'était le récit du progrès. Et puis maintenant, on aurait l'Apocalypse sans royaume. Ce qui, vous l'avouerez, est la formule la plus désespérante, c'est-à-dire que notre Apocalypse, elle n'ouvrirait sur rien.
Dans ce contexte, imaginer l'avenir n'est pas évident, pas facile. Comment est-ce qu'on représente l'avenir aujourd'hui dans les œuvres littéraires ou à travers les photos que vous étudiez ?
Alors justement, ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord, se représenter l'avenir, ça a avoir une fonction, dit Günther Anders, prophylactique. Prophylactique, comme on le dit en médecine, c'est-à-dire il faut se représenter l'apocalypse de manière la plus désespérante possible, parce que c'est comme ça qu'on va l'éviter. Donc, il va y avoir des récits apocalyptiques qui sont exagérés, d'une certaine manière, des récits de guerre nucléaire totale, par exemple, mais ces récits ne sont pas exagérés dans le sens où leur fonction, c'est de nous obliger à nous confronter à une perspective qu'il faut éviter à tout prix. Donc, me semble-t-il, la première possibilité pour s'imaginer l'avenir, ça va être de s'imaginer l'avenir plutôt comme une sorte d'expérience de pensée pour éviter qu'il arrive, en fait. Et puis, moi, ce que j'essaye de promouvoir, c'est plutôt une vision de l'avenir à partir de ce que j'appellerais une sorte de catastrophisme expérimenté. C'est-à-dire que des fins du monde, il y en a déjà eu. Des fins du monde... Si vous pensez aux peuples indigènes d'Amérique du Sud pendant la colonisation espagnole, avec l'arrivée des virus et avec bien sûr la violence de la colonisation, on a 95% de la population qui disparaît sur 2 siècles. Si ça, c'est pas une fin du monde, donc cette apocalypse, c'est une apocalypse réellement, elle a déjà eu lieu. Et ce que disent aujourd'hui des anthropologues, ou ce qu'on peut voir aussi en littérature, c'est que, bah justement, même après une apocalypse comme celle qu'ont vécu les populations amérindiennes, il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a des individus qui doivent s'accommoder à un nouveau monde. Et l'anthropologue Viveros de Castro dit, finalement, ils nous apprennent quelque chose qui nous concerne, C'est-à-dire, ils nous apprennent ce que c'est des hommes sans monde. Et nous aussi, peut-être qu'on va devenir des hommes sans monde. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se représenter un monde sans hommes, mais peut-être que ce qu'on va être, nous, ou ce qu'on commence à comprendre, c'est ce que c'est que d'être des hommes perdus dans un monde qui n'offre plus aucun repère, aucune stabilité, un monde radicalement précaire, un monde qui nous désoriente. Et qu'au fond, on peut peut-être s'appuyer sur ces expériences passées pour comprendre quelles sont les solutions de survie, quelles sont les manières aussi de raconter et de donner sens à cette expérience. Pas pour la justifier, bien sûr, mais pour justement trouver des manières de continuer à vivre qui ne soient pas simplement de la survie.
À force de vous intéresser à l'apocalypse, aux catastrophes, vous gardez le moral ?
C'est une bonne question. Pas toujours. Ça me semble sain de ne pas garder le moral toujours dans la situation qui est la nôtre. C'est-à-dire que, justement, je vous parlais tout à l'heure de Voltaire et du poème sur le tremblement de terre de Lisbonne. Il parle des tranquilles spectateurs du désastre. Et c'est vrai que quand on travaille sur l'apocalypse, quand on travaille de façon comme ça récurrente sur la fin du monde, et quand on a des enfants, c'est désespérant. Mais il ne faut pas s'immuniser, en fait, contre l'émotion du désastre. Il ne faut pas devenir un tranquille spectateur. Parce que, justement, ce qui est vrai dans la catastrophe, ce qui est vrai dans ce processus de perte, c'est qu'il n'a pas beaucoup de sens. Et peut-être qu'il faut s'ouvrir à ce non-sens. Peut-être qu'il faut aller trouver les récits qui refusent de lui donner un sens. Peut-être que c'est ces récits-là qui vont nous mobiliser plutôt que des récits qui nous présentent une sorte d'apocalypse prête à penser, en quelque sorte.
Et que vous apporte l'IUF ?
Alors l'IUF, il m'apporte le bien le plus précieux qui soit au monde, c'est-à-dire la capacité à ralentir, à prendre le temps. D'abord, quand on travaille sur des corpus littéraires, textuels, on lit beaucoup et lire, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et d'autre part, je crois que dans une civilisation de l'urgence comme la nôtre, et dans une université qui, elle aussi, est prise par cette urgence dans laquelle, moi, je fais beaucoup de choses très prosaïques à la fac. Hein. On a des charges administratives, évidemment, on enseigne, ça c'est la belle partie, mais on fait aussi beaucoup de choses qui sont très chronophages. Donc on est rattrapé par la grande accélération finalement de notre modernité, celle qui conduit au désastre. Et l'IUF, ça me permet de tirer le frein d'urgence en quelque sorte et de prendre 5 ans pour réfléchir à cette question de comment imaginer notre avenir qui me semble assez importante aujourd'hui.
Le jour où... Un podcast original de France Inter avec l'Institut universitaire de France. France Inter.